Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs de Radio Slash, ici Arthur, et aujourd'hui nous allons évoquer un sujet important, l'esclavage. Pour commencer, qu'est-ce que l'esclavage, Antonin ?
L'esclavage est le fait d'exploiter des personnes qui ne sont pas libres et qui sont sous les ordres d'un maître.
L'esclavage est-il encore présent dans le monde moderne ?
On peut observer qu'aujourd'hui environ 40 millions de personnes sont victimes de cet esclavage moderne. Cela est dû à une nombreuse utilisation de main-d'œuvre, majoritairement en Asie.
Parmi ces 40 millions de personnes, 25 millions sont des travailleurs forcés de travailler toute la journée.
Oui, mais cependant, l'esclavage dans le monde est en baisse grâce à de nombreuses mesures prises, notamment par le Comité contre l'esclavage moderne, qui lutte contre ce fléau depuis sa création en 1994.
Comment se fait-il qu'il existe encore de l'esclavage aujourd'hui ?
L'esclavage est une pratique très ancienne qui date du 15e siècle. Les Portugais achetaient des hommes sur les côtes d'Afrique qu'ils envoyaient alors à destination de l'Amérique. L'Amérique demandait une main-d'œuvre abondante pour alimenter les mines et les plantations. C'est le début de l'esclavage.
L'esclavage va continuer d'exister, notamment via le commerce triangulaire, jusqu'au début du 19e siècle.
On peut donc en conclure que notre monde est ravagé depuis 6 siècles d'un esclavage ancien et moderne.
Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.
Bonjour Salomé, pouvez-vous nous dire pourquoi il y a de l'esclavage dans le monde ?
Eh bien, Louane, l'esclavage apparaît au milieu du 15e siècle, lorsque les Portugais capturent ou achètent des Africains pour les déporter vers leurs colonies. Il a traversé des siècles et il s'est répandu dans plusieurs pays du monde entier. On a tendance à croire que tout cela fait désormais partie du passé, mais c'est malheureusement une erreur, car des pays où l'esclavage existe encore. La Mauritanie en fait partie, car elle a été le dernier pays au monde à interdire l'esclavage en 1981, mais cela n'a pas duré, car en effet l'esclavage est revenu dans le pays. 20% de la population sont des esclaves à ce jour.
L'esclavage n'est pas normal car toute personne est égale, quelle que soit sa couleur ou son sexe. Tout le monde est libre de ses choix et de sa vie. Nous n'avons pas le droit de décider à leur place et encore moins de les forcer.
L'égalité homme-femme est inscrite dans le préambule de la Constitution de 1946. Depuis toujours, il existe des inégalités entre les hommes et les femmes, comme le droit de vote que les femmes ont eu seulement le 29 avril 1945. Ou encore, à titre de comparaison, la première femme, Premier ministre, fut Édith Cresson en 1991, contre 1959 pour le Premier ministre, homme sous la Ve République. De plus, c'est seulement en 1965 que les femmes acquièrent le droit d'exercer leur profession, et d'ouvrir un compte bancaire sans avoir besoin de l'accord de leur mari. Les femmes perçoivent une pension de retraite en moyenne inférieure de 41,7% à celle des hommes. Prenons maintenant l'exemple de l'Assemblée nationale, où les femmes sont moins représentées que les hommes, avec 26,9% de femmes contre 73,1% d'hommes, ou encore au Sénat avec 22% de femmes.
Dans le monde du sport, les femmes sont également victimes d'inégalités car elles sont sous-représentées, et la retransmission des sports féminins occupe moins de 20% du volume horaire. À travers tous ces exemples, on peut affirmer qu'encore aujourd'hui, dans le monde moderne, les femmes sont victimes de nombreuses inégalités.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le point matinal de Radio Slash. Aujourd'hui, nous allons voir comment s'expliquent les différences des salaires entre les femmes et les hommes.
De nombreuses lois sont votées dans les années 1900, comme la loi de 1972, qui reconnaît le principe d'égalité de salaire entre les hommes et les femmes. Mais en 2019, selon l'INSEE, le revenu salarial des femmes reste inférieur en moyenne de 22% à celui des hommes, ce qui montre que la loi n'est pas entièrement respectée. Un peu moins d'un tiers de cet écart s'explique par des différences de durée de travail. À l'arrivée des enfants, pour concilier vie privée et vie professionnelle, les femmes sont toujours plus nombreuses que les hommes à interrompre leurs activités ou à réduire leur temps de travail. En 2020, celles qui travaillent sont trois fois plus souvent à temps partiel que les hommes.
Les femmes ont également moins souvent accès aux postes les mieux payés et travaillent dans des entreprises et secteurs d'activité moins rémunérateurs. D'autres facteurs répondent à cette problématique comme la hausse des ruptures de couple. Le nombre de mères à la tête d'une famille monoparentale a augmenté de 24% entre 2006 et 2018. Parmi elles, une sur trois vit sous le seuil de la pauvreté. Du fait de carrières professionnelles plus courtes et moins bien rémunérées, les femmes partent à la retraite en moyenne un an plus tard que les hommes et leurs salaires sont inférieurs.
Toute l'équipe de Radio Slash vous remercie pour votre écoute et vous souhaite une bonne journée.
Salut Melvin.
Salut Eva.
Tu sais, j'ai réfléchi, en fait, il y a énormément de stéréotypes dans notre société actuelle.
Mais c'est quoi un stéréotype ?
Ben, c'est tout simplement un cliché. En fait, c'est une opinion toute faite et sans aucune originalité fondée sur des choses, ben, ridicules.
Ah, ok. En gros, c'est comme par exemple le bleu pour les garçons et le rose pour les filles.
Oui, exactement. Mais il n'y a pas que ça. La dernière fois, j'ai entendu dire que les femmes ne pouvaient pas faire de sport dit de garçons, comme le foot ou le rugby, et pour les garçons, la danse ou du cheval, car c'est trop féminin. Tu trouves ça normal, toi ?
Bah non, tout le monde peut faire le sport qu'il veut.
Mais si c'était que ça ?
C'est quand même triste, les mentalités d'aujourd'hui.
Le pire, c'est qu'on vit avec depuis tout petit, et que c'est devenu comme une normalité.
La dernière fois, j'ai entendu dire, venant d'un groupe dans la cour, que des personnes qui ne portaient pas de marque étaient pauvres. Et en plus, le pire, c'est qu'ils l'ont dit sérieusement.
Non, mais je suis choquée de notre génération.
Oui, moi aussi.
Bonjour Léo, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler du livre de Jesse Magana, publié aux éditions Actes Sud Junior en 2013, intitulé « Non au viol ».
Oui Noah, ce livre retrace le parcours de Gisèle Halimi. Elle était une grande avocate d'origine tunisienne. Elle a défendu à partir des années 1950 des militantes de l'indépendance de l'Algérie. À partir des années 1960, elle assure la défense de l'activiste militante Jamila Boupacha, qui a refusé des tentatives d'assassinat, puis torturée et violée. Elle est surtout célèbre pour le procès de Bobigny en 1972, durant lequel trois femmes étaient accusées d'avortements illégaux.
Dans le livre de Jesse Magana, Sarah, une adolescente, rêve de rencontrer Gisèle Halimi, l'avocate et féministe célèbre pour ses luttes pour le droit des femmes. À travers l'histoire de Sarah, qui a vécu elle-même le traumatisme d'un viol, Jesse Magana évoque le parcours et les luttes de Gisèle Halimi, qui restent plus que jamais d'actualité. Aujourd'hui, encore 75 000 femmes sont violées chaque année en France. Son combat est loin d'être terminé.
Merci Noah.
Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous parler des inégalités. Il y a encore beaucoup d'inégalités en France ainsi que dans le monde, comme les inégalités scolaires, dans le logement ou bien socialement. Moi aujourd'hui, je vais vous parler des inégalités sociales. Une inégalité sociale qui est une différence entre les individus ou des individus sociaux portant des avantages ou des désavantages dans l'accès des ressources socialement valorisées.
En France, il y a plus de 10% qui sont les plus riches. Ils gagnent environ 5 900 € par mois. Ces derniers procèdent également à eux seuls la moitié de la richesse en France, donc 46,4% de l'ensemble du patrimoine des ménages. Le taux de la pauvreté est passé de 7,7% en 2009 à 8,2% en 2019, soit 5 000 personnes supplémentaires.
Donc pour conclure cette émission, il faut lutter contre ces inégalités pour construire un monde meilleur.
Bonjour, ici Linda et on va vous parler du combat des handicapés contre les discriminations qu'ils subissent. Combien sont-ils en France, Lilou ?
Les handicapés représentent un quart de la population française et la plupart ne se sentent pas égaux aux autres car la société les rejette. Ils font partie des personnes les plus sujettes aux moqueries, bien souvent à cause de leur apparence et leur façon d'être. Les personnes en situation de handicap vivent des discriminations au travail, à l'école et dans la vie de tous les jours. À l'école, 2 enfants sur 5 disent en être victimes.
Malgré cela, certaines personnes handicapées peuvent devenir de grandes stars. Par exemple, Andrea Botticelli est un ténor, musicien, écrivain et producteur italien. Il est aveugle, mais malgré cela, il a prouvé en recevant plusieurs prix internationaux que nous sommes égaux. Un handicapé peut réussir autant qu'un autre.
De nombreuses personnes luttent contre cela. Par exemple, Cécile Morin et Elisa Rujos, membres du collectif Lutte et Handicap pour l'égalité et l'émancipation. se battent pour l'égalité en faisant passer des messages forts et engagés pour une société plus inclusive.
Espérons que les choses changent.
Dans une célèbre entreprise, deux collègues discutent pendant la pause café.
Hey, Zina, comment ça va ?
Ça va et toi ?
Ben, bof, hein. J'ai un petit problème en ce moment.
Ah oui ? Lequel ?
Ben, en fait, mon fils qui est autiste se fait harceler par ses camarades de 5e. Il le considère comme inférieur.
Ah mince, mais comment ça se fait ?
Je sais pas, en soir en rentrant du collège, il était distant. Et quand je lui ai demandé, il m'a dit que ses camarades le tapaient et l'insultaient depuis plusieurs semaines.
Il en a parlé à ses professeurs ?
Non, il ne veut pas en parler.
C'est déjà bien qu'il en ait parlé avec toi.
Oui, mais il faut que ça s'arrête. J'ai pris rendez-vous avec son professeur principal demain.
Moi, j'apprends à mes enfants que tout le monde est égaux et qu'il n'y a pas de différence que ce soit un handicap ou pas.
Oui, c'est sûr que si les parents apprenaient à leurs enfants que tout le monde est égaux...
Oui, mais tout le monde devrait l'être, même si on a des difficultés, un handicap ou un sexe différent. En tout cas, j'espère que ça va s'arranger pour ton fils.
Oui, je l'espère.
Le sexisme, c'est quoi ?
Le sexisme est le principal obstacle à l'égalité entre les hommes et les femmes. La plupart des comportements sexistes sont punis par la loi. C'est le cas des remarques gênantes, des sifflements ou des insultes dans la rue, dans les médias, à l'école, dans le sport ou au travail. Dans la plupart des cas, ce sont les femmes qui subissent, même s'il y a aussi des hommes.
Le sexisme engendre de grandes inégalités dans tous les domaines, que ce soit politique, social, familial ou même l'accès à l'éducation en grande majorité pour les filles, comme par exemple Malala, une militante pakistanaise des droits de femmes qui est devenue un symbole international de la lutte pour l'éducation des filles dans le monde en obtenant le prix Nobel de la paix en 2014.
Le sexisme est une idéologie qui repose sur l'idée que les femmes sont inférieures aux hommes. Il se caractérise par des propos dégradants dirigés contre une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe qui ont pour objet parfois, avec l'intention d'être drôle, de les rabaisser ou de les dénigrer.
Le sexisme est puni par la loi numéro 2018-703 du 3 août 2018, renforçant la lutte contre les violences sexuelles ou sexistes.
L'égalité entre les hommes et les femmes doit être encore combattue, même si de grands progrès ont été réalisés.
Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Aujourd'hui, nous accueillons une invitée surprise, Sandrine Dumont.
Bonjour tout le monde.
Alors Sandrine, on espère que vous êtes heureuse d'être à nos côtés ce soir.
Oui, c'est un honneur pour moi d'être sur plateau et d'exprimer mon opinion sur le féminisme.
Pour commencer, pouvez-vous nous parler de votre parcours pour en arriver à la femme que vous êtes aujourd'hui ?
Alors, à mes 10 ans, je me suis faite violer à la sortie du collège. Puis tout au long de ma vie, j'ai subi de l'harcèlement moral et sexuel. Malheureusement, je ne l'ai dit à personne, pas même à mes parents. Je le regrette encore aujourd'hui car cette fille a impacté toute ma scolarité et mes études supérieures.
Oui, c'est sûr que les femmes ont ce sentiment d'infériorité dans la société. Mais dites-nous Sandrine, comment vous sentez-vous dans votre vie actuelle et avez-vous des conseils pour la jeunesse ?
Actuellement, je suis surmontée tout cela et si je devais adresser un message à la jeunesse, je leur dirais d'ignorer tout ce que l'on peut dire de péjoratif sur les femmes et se concentrer sur ses objectifs de vie sans faire attention à toutes ces inégalités.
Bien. Merci d'avoir été parmi nous cet après-midi et bonne continuation.
Merci à vous et au revoir.
Oui, on va encore en parler. Pourquoi toujours nous dénigrer ? Nous qui vous inspire, veuillez écouter la voix de la raison.
Aujourd'hui, la folie est plus présente que ton odeur qui me hante, alors laisse place à la démagogie.
Si tu respectes les femmes, tu fais partie de la minorité. Reprends cette flamme sans te brûler et tu pourras t'en vanter.
Ne sois pas de ceux qui justifient le viol par la tenue, soit de ceux qui dénoncent cet abus. Ne sois pas de ceux qui veulent nous objectiser, soit de notre côté. Et si elles soient menées d'une lutte, alors trouverons notre but. Et si elles soient menées d'une lutte, alors trouverons notre but.